Radio Cité Genève.
Cité Culture. Yann Bellini.
Et aujourd'hui, il sera question de l'exposition Print, les premières pages d'une révolution, à voir jusqu'au 31 octobre au Musée international de la Réforme. Nous y sommes aujourd'hui pour Cité Culture en compagnie de Gabriel de Montmolin, directeur et commissaire de cette exposition. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, la Réforme a 500 ans et ma première question est toute simple. Pourquoi s'être focalisé sur l'imprimerie et non les textes en eux-mêmes?
Ce serait trop dire qu'on ne s'intéresse qu'à l'imprimerie, puisqu'on propose aussi beaucoup de textes. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'est de mettre en évidence la mécanique de la Réforme, parce que sans elle, sans l'imprimerie, sans la presse de Gutenberg, le protestantisme n'aurait jamais connu la diffusion et l'impact qu'il a rencontré.
Alors, il y a une presse à l'entrée, on va y venir dans quelques minutes. Une salle, la Galaxie Gutenberg, on voit justement que ça sort même du cadre religieux, parce que l'imprimerie a été une révolution pour bien d'autres domaines.
Ça a été une révolution considérable au XVIe siècle, qui a complètement changé la façon dont on apprenait, dont on lisait, dont on se déterminait par rapport à toutes sortes de contenus culturels, religieux, politiques et sociaux. On dit que la Réforme a été la première campagne de presse réussie de l'histoire. On dit aussi qu'à peu près 20 millions de personnes ont eu un rapport avec les écrits de Luther de son vivant. Donc on voit qu'à un moment donné, la presse de Gutenberg, pour la Réforme et aussi pour d'autres contenus culturels et religieux, a un impact considérable qu'on peut comparer à la révolution numérique actuelle qui casse toute une série de hiérarchies, et la Réforme a aussi contribué à changer toutes sortes de hiérarchies et toutes sortes de comportements.
Cette fameuse presse, on en voit un exemplaire à l'entrée du musée de la Réforme, une dimension interactive. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de cette presse pour l'expliquer à nos auditeurs ?
L'idée avec cette presse, c'est de faire participer les visiteurs à l'impression sur, effectivement, le mode du XVIe siècle, à l'impression du principal best-seller de l'époque, qui était la Bible. Il s'est vendu en Europe à peu près 1 million de Bibles dans la première moitié du XVIe siècle, et donc on a décidé précisément d'imprimer une Bible en 130 jours, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans le livre final, qui sera tiré en un seul exemplaire, et donc les visiteurs sont appelés à ancrer les formes, presser la vis et réaliser eux-mêmes des feuilles de la Bible qu'ils peuvent emporter avec eux.
Alors il s'agit de quelle Bible, quelle traduction, quelle édition?
Le but des réformateurs, c'était d'imprimer des Bibles afin que chacun puisse les comprendre dans leur langue. Donc à côté de leur travail, on va dire pamphlétaire, les réformateurs ont été de grands traducteurs de la Bible. Luther disait, les enfants, les femmes de ménage et les bourgeois doivent comprendre la Bible, donc traduisons-les avec des expressions les plus proches d'elle. Donc nous avons choisi de prendre la plus contemporaine des Bibles, la plus proche des lecteurs, donc nous sommes tournés vers les éditions Bayard qui ont publié la Bible des écrivains en l'an 2000-2001, à laquelle ont contribué des grands écrivains actuels pour la traduction comme Emmanuel Carrère, Jean Echenot ou Marine Diaye. Et donc c'est cette Bible-là qui est imprimée sur un format du XVIe siècle, nous permettant de réaliser une tension entre le très contemporain et l'ancien, ce qui est un des buts aussi d'un musée comme le nôtre.
Alors cette tension entre le présent et le passé peut-être se matérialise aussi avec l'intervention d'artistes contemporains, je me rappelle de Mathieu Perret. Quelle est leur contribution en fait?
Alors on s'est dit, comme les Bibles du XVIe siècle étaient largement illustrées par des grands artistes de l'époque, reproduisons cette collaboration à notre époque. Aujourd'hui, nous nous sommes approchés de John Armleder, Mark Bauer, Vidya Gasaldon et Mathieu Perret, pour leur demander d'illustrer en toute liberté cette Bible avec la seule consigne de faire réaliser autant que faire se peut leur contribution sur cette presse, à la main. Et donc, en septembre, ils vont nous proposer toute une série d'illustrations qui vont figurer dans la Bible et on se réjouit beaucoup de voir effectivement à quelle sauce cette Bible sera mangée.
Du coup, une extension de cette exposition artistique, une exposition qui a aussi une dimension historique, pédagogique, même interactive avec cette fameuse presse à l'entrée. Finalement, on va utiliser un terme marketing, votre public cible, ça s'adresse à qui cette exposition ?
C'est une exposition qui s'adresse à toutes sortes de personnes qui peuvent trouver leur compte, soit parce qu'ils veulent avoir un peu d'interactivité dans cette exposition et ça leur permet de manier un magnifique dispositif d'imprimerie qui est à la fois très spectaculaire et très facile, et On a ouvert il y a 2 jours et on voit déjà l'engouement que ça suscite, notamment chez les jeunes. Et puis ça s'adresse à des personnes férues de textes anciens et de bibliophilie, parce qu'on a, grâce à la Fondation Bodmer et à la Bibliothèque de Genève, des œuvres absolument formidables qui nous sont prêtées et qui figurent dans notre musée, notamment pour illustrer la partie des best-sellers. Et puis on a aussi un public alors plus intéressé par le protestantisme et la réforme qui vient effectivement méditer sur le rôle de la presse de Gutenberg par rapport à l'idée elle-même de la réforme. Quelles sont en fait les influences de l'une sur l'autre, et c'est, on va dire, l'aspect plus pédagogique de cette exposition qui permet précisément de se promener dans cette mémoire de la réforme.
Merci Gabriel de Montmolin au commissariat pour cette exposition Print, les premières pages d'une révolution. On vous rappelle, chers auditeurs, que c'est à voir jusqu'au 31 octobre au Musée international de la réforme.